Vous écoutez
RMC.
Il est 8h et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. La météo, la pluie encore, Géraldine.
La pluie, le vent, les avalanches pour aujourd'hui, c'est une situation extrêmement compliquée sur le pays. Les départements en vigilance rouge pour les crues ne changent pas. Maine-et-Loire, Charente-Maritime, Gironde, Lot-et-Garonne. À noter que le pic de crue a été atteint à Bordeaux. Le pic a été atteint à 6,85 m. 15 autres départements sont en vigilance orange pour les crues, essentiellement près de l'Atlantique. À noter aussi qu'on a le risque de submersion près de l'Atlantique. Les départements des Alpes en vigilance orange pour les avalanches. Et à partir de midi, les Pyrénées-Orientales et l'Aude en vigilance orange pour le vent qui pourra atteindre les 130 voire 140 km par heure. Mais sur tout le pays, on a de nombreuses averses aujourd'hui. Le sud-ouest va être particulièrement touché. Puis beaucoup de vent de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Attention aussi aux coulées de neige sur les Alpes, bien sûr, mais également vers les Vosges et le Massif central. Les températures en baisse cet après-midi. Ça va remonter ensuite, mais pour cet après-midi, il fera généralement 8 à 12 degrés. 13 à 17 si vous êtes près de la Méditerranée.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
8h passées de 1 minute, très belle journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une partie de la France immergée, ça n'en finit plus. Nous irons à Bordeaux dans ce journal où le niveau de la Garonne vient d'atteindre son pic. La fin ce jeudi des gardes à vue pour 11 suspects interpellés après la mort de Quentin Derenque. Parmi eux, trois proches du député insoumis Raphaël Arnaud. Certains devraient être présentés à un juge d'instruction dans la journée. Et chaussez vos skis de peau de phoque ce matin. On vous emmène à Bormio pour les épreuves de ski alpinisme. Nouvelle discipline au jeu d'hiver de Milan Cortina.
De l'eau, encore de l'eau, toujours de l'eau.
Et jusqu'aux genoux pour certains, et cela fait des jours que ça dure avant une accalmie demain, il va falloir encore subir cette pluie aujourd'hui, conséquence de la tempête Pedro, des champs submergés, des habitations inondées et des cours d'eau qui gonflent à vue d'œil, comme à Bordeaux ce matin où le plan de sauvegarde est activé pour la première fois depuis plus de 25 ans sur place. C'est en direct notre correspondant Pierre Bourgès. Le pic de crue de la Garonne vient tout juste d'être atteint, Pierre.
Exactement, 6 m85. On est à quelques centimètres des niveaux de 1999, mais pour l'instant, plus de peur que de mal. Les quais à Bordeaux ont été inondés, mais cela arrive régulièrement en période de grande marée, comme c'est le cas ce matin. Et pour l'instant, dans le quartier Bacalan, où je me trouve au nord de Bordeaux, tout va bien. L'eau n'a pas touché les habitations, mais le quartier reste sous surveillance. Tout de même, certaines routes restent coupées. Écoutez, Véronique, qui habite au bord de la Garonne, ici dans le quartier, elle est venue à pied ce matin pour vérifier le niveau de l'eau.
Très peur cette nuit, pas trop dormir. Et là ce matin, je suis venue voir, je viens à droite, à gauche pour regarder si elle est montée, quoi. Et là, il reste pas beaucoup, 50 cm je vois. J'ai vu les quais aussi en photo, ils sont inondés. Il me tarde que ça passe. J'ai très peur. Ouais, je le dis franchement, j'ai très peur.
Voilà, et une inquiétude partagée par d'autres habitants. Hein. Un autre habitant que j'ai vu ce matin, qui est venu à vélo, me confie avoir très rarement vu la Garonne à ce niveau. Un autre venait depuis 6 heures pour vérifier le niveau, puisqu'il habite à côté. Et depuis hier soir, le plan communal de sauvegarde a été déclenché pour assurer la protection de la population. Une première depuis 27 ans. La ville reste pour le moment en alerte, puisqu'un autre pic aura lieu ce soir, au moment de la prochaine pleine mer.
Pierre Bourgès, en direct de Bordeaux, ce matin, la Gironde qui reste donc en vigilance rouge au cru avec trois autres départements. C'est le cas du Maine-et-Loire où un homme est toujours porté disparu ce matin. Attention aussi aux avalanches. Dans les Alpes, quatre départements sont en vigilance. Des coulées de neige qui se sont multipliées ces derniers jours, comme au Villard, près de Saint-Jean-de-Belleville en Savoie, où un mur de neige s'est formé, bloquant la seule route qui relie le hameau au reste de la vallée. Et des vacances gâchées pour Cindy et sa famille, vacancière du Pas-de-Calais.
Bah là, c'est jeu de société. Bah après, il fait beau, donc bataille de neige. On essaie de s'occuper autour du logement. Bah après, c'est sûr qu'ils préfèrent être sur les pistes, mais bon. Un habitant là du village nous a dit, allez voir, c'est même sympa à regarder le déblaiement de l'avalanche avec les gros engins. Et bon, c'est pareil, c'est 1,5 km d'ici. Donc avec notre petite de 5 ans, c'est pas possible, quoi.
Il est 8h04, vous écoutez RMC, une avancée importante attendue. Aujourd'hui, une semaine après la mort de Quentin Derenque, militant nationaliste de 23 ans, battu à mort à Lyon, lynché à l'issue d'une bataille rangée entre membres de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite. 11 personnes ont été interpellées depuis, placées en garde à vue. Julie Brault, du service police-justice, vous suivez ce dossier pour RMC. Vous êtes en direct de Lyon ce matin où les premiers gardés à vue dans cette affaire devraient être présentés à un juge d'instruction en fin de journée.
Oui, il devrait être déféré ce soir en vue de leur éventuelle mise en examen. Et tout l'enjeu, c'est de savoir ce qu'il va notamment advenir des 7 suspects principaux soupçonnés d'avoir directement frappé Quentin de Ranc. Parmi eux, Jacques-Élie Favreau, assistant parlementaire de l'insoumis Raphaël Arnaud. Par la voix de son avocat hier soir, il a reconnu, je cite, la commission de violence jeudi dernier, mais il a assuré qu'il n'était pas l'auteur des coups mortels. Reste désormais à savoir quel type de faits seront retenus contre lui alors qu'il est à ce stade mis en cause pour homicide volontaire. C'est aussi la question qui se pose pour deux autres collaborateurs de Raphaël Arnaud, eux aussi soupçonnés d'être les auteurs de coups de pied et de poing, notamment assénés dans la tête de Quentin de Ranc. Quant aux autres suspects, on sait que la majeure partie d'entre eux étaient proches de l'ultra-gauche. Certains étaient même fichés S, en lien avec leurs engagements militants. Seuls 4 suspects ne sont pas directement liés à l'affaire, mais sont soupçonnés d'avoir hébergé ou caché les autres mis en cause.
Julie Brault, service police-justice RMC en direct de Lyon ce matin, et la réaction de l'Élysée, le président de la République qui se dit préoccupé. Chacun doit faire preuve de calme et de respect. Il faut éviter tout engrenage de la violence. Une affaire qui divise la classe politique avec peut-être des conséquences sur les élections municipales et à 3 semaines du scrutin. Coup de projecteur ce matin sur Marseille. Et émission spéciale des Grandes Gueules en direct de 9h à midi sur RMC depuis le Palais de la Bourse, Marseille, où le Rassemblement National continue de faire son trou au point de menacer le maire sortant Benoît Payan, crédité de 31% des voix au premier tour, au coude à coude donc avec le candidat RN Franck Alizio à 29% selon un sondage Elab pour BFM TV et La Provence. Et parmi les thèmes de campagne, la sécurité, la lutte contre le narcotrafic, mais aussi la rénovation des écoles, à l'origine d'un plan sur 10 ans pour 1,5 milliard d'euros. Anna Jojard.
À la place de l'école nationale, il n'y a plus aujourd'hui que des tractopelles.
Tout a été détruit, c'était une école entière qui était derrière nous.
Michael Bregliano enseigne ici depuis presque 20 ans et il énumère les problèmes qui ont conduit à cette rénovation complète.
Des difficultés de structure, des difficultés d'exiguïté, des difficultés d'hygiène, d'infiltration, et malheureusement c'est ce qu'on trouvait dans de nombreuses écoles et qu'on retrouve encore aujourd'hui.
Pour répondre au délabrement de ces écoles, la mairie et l'État ont mis en place un plan à plus d'1,5 milliard d'euros il y a 5 ans, mais selon Romain Cimarano, porte-parole de la candidate d'hiver droite Martine Vassal, cet argent n'a pas été bien utilisé.
La vérité, c'est celle que ressentent nos enfants dans nos écoles aujourd'hui. Il y a encore des murs qui s'écroulent, il y a encore des moisissures, et ça, on ne peut plus l'accepter.
Le candidat RN critique lui aussi la gestion par la mairie de la rénovation des écoles. Thomas Battesti est l'un de ses colistiers, et il pointe du doigt notamment le chantier d'une école marseillaise qui est dans le viseur de la justice après un signalement du préfet.
Le fait qu'il y a eu une enquête pour favoritisme qui a été mis en place, et tout ça contribue à faire comprendre aux Marseillais que il y a de l'argent a été dépensé pour rien.
Le maire sortant, candidat à sa réélection, assure lui avoir fait en un mandat beaucoup plus pour les écoles que lors de ses 25 dernières années.
Et justement, un mot pour vous dire effectivement que nous serons à Marseille aujourd'hui à 9h, les Grandes Gueules sur RMC et RMC Story en direct et en public depuis le Palais de la Bourse à Marseille. Et puis ce soir, j'animerai le premier des grands débats des municipales. Coup d'envoi des municipales, c'est à 20h55, à suivre sur BFM TV et BFM Marseille pour entendre donc les principaux candidats à la mairie de Marseille. Il est 8h08.
Un décret ce matin paru au Journal Officiel. Les agents de sûreté de la SNCF et de la RATP vont désormais pouvoir être équipés de pistolets à impulsion électrique, autrement dit des tasers, autorisation expérimentale pour 3 ans, visant à permettre aux agents de maîtriser les situations violentes dans les réseaux de transport. On prend maintenant la direction de l'Italie.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
Après la 17e médaille pour le clan tricolore hier sur le relais féminin en biathlon, on va suivre de près ce jeudi les épreuves de ski alpinisme. Léna Marjac à Bormio ce matin en direct. C'est là que vont se dérouler les épreuves de cette nouvelle discipline des Jeux Olympiques insolite et spectaculaire.
Oui, et aujourd'hui on va commencer par un format particulier, le sprint. C'est un format court, c'est très intense, c'est moins de 3 minutes d'effort et c'est à répéter lors des séries, des demi et de la finale en cas de qualification. Et donc l'objectif, c'est de grimper la montagne à l'aide de pots de phoque sous les skis en passant par quelques difficultés, puis de descendre la piste un peu en mode slalom. Et évidemment, le premier qui passe la ligne d'arrivée s'impose, et la France fait partie des grandes favorites, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Émilie Arop et Thibaut Anselmé sont les deux têtes d'affiche du ski alpinisme français. Et tous les deux rêvent d'or dans ces jeux. Arop, chez les femmes, a remporté 2 étapes de Coupe du Monde cette saison. Anselmé est double vice-champion du monde. Et clairement, pour leur première aux Jeux Olympiques, les Français pourraient marquer l'histoire de leur sport.
Léna Marjac, qu'on retrouvera au commentaire de cette épreuve de ski alpinisme cet après-midi sur RMC. Puis c'est officiel, Habib Bey est de retour à l'OM après en avoir été le capitaine. Il va s'installer sur le banc marseillais jusqu'en 2027.
C'était le journal de Thibaut Texer, 8h10. On parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre, la nouvelle loi de programmation de l'énergie va être fatale à de nombreuses stations-services.
Et oui, un des objectifs de cette loi de programmation de l'énergie, c'est de réduire de 6% par an la consommation de carburants fossiles, ce qui nous amènerait d'ici 2035 à une consommation inférieure de 45 à 50% à ce qu'elle est aujourd'hui. Or, c'est quoi le modèle de la station-service ? Bah, c'est des marges faibles sur le litre vendu, et donc, pour être rentable, il faut vendre énormément de quantité, sachant que les revenus tirés de la boutique ou de certains services, comme les colis par exemple, ne peuvent pas entièrement compenser. Donc si les volumes baissent de moitié, bah, certaines stations rurales, souvent indépendantes, vont devenir non rentables. Le maillage territorial va se fragiliser. Il faudra faire davantage de kilomètres pour trouver une station qui subira moins de concurrence, donc qui fera payer l'essence plus cher. Bref, tant pis pour les ruraux.
Combien de stations pourraient disparaître ?
Alors, songez qu'il y en avait 40 000 dans les années 80. Il n'y en a plus que 11 000 aujourd'hui. Et là, d'après les dernières estimations, on peut redouter que 2 000 à 3 000 stations-service mettent la clé sous la porte dans les 10 ans qui viennent. En fait, tout va se jouer sur la vitesse d'électrification du parc automobile, la volonté de soutenir les stations rurales, les prix des carburants et le comportement des grandes surfaces.
On peut envisager aussi un scénario dans lequel les stations-service s'adapteraient.
Oui, absolument.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer comment seront les stations-service de demain ?
Alors, inutile de vous dire que tous les cabinets de conseil en stratégie phosphore fort sur le sujet.
Cabinet de conseil en stratégie,
oui,
déjà le concept.
Les McKinsey, les BCG, tout ça, ça phosphore sur l'avenir des stations-service. Alors, tous ont à peu près la même vision, hein, des stations-service qui misent sur la recharge électrique, mais ça c'est valable sur les grands axes et en ville. Une borne rapide, ça coûte entre 100 000 et 200 000 euros à installer. Plus on s'éloigne des villes, plus il faudra jouer sur les services, des petits supermarchés, des hubs de mobilité, des services publics locaux, développer le côté lieu de vie plutôt que lieu de passage, avec de la restauration par exemple. Bref, le grand défi, ce sera de faire venir dans les stations-service des clients qui n'ont pas besoin de carburant. Et ça, effectivement, il faudra peut-être que les communes aident aussi. Mais c'est un véritable enjeu d'aménagement du territoire.
Merci Emmanuel, il est 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, c'est Arnaud Demanche qui nous rejoint à 8h30. L'invité du face-à-face, notez-le, ce sera le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Il vient évidemment réagir après la mort de Quentin Derenque à Lyon ce week-end. Et puis juste après, Nicolas Canteloup et ses imitations. Face à Canteloup, c'est tous les jours à 8h50 sur RMC. On se retrouve dans un instant, il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
Tous les jours de Manche. Bonjour.
Il est 8h15, c'est tous les jours qu'il est avec nous pour notre plus grand plaisir, Arnaud Demanche.
Et oui, c'est moi. Bonjour les amis. Apolline, vous êtes en forme ? Ça va ? Prête pour la journée marathon ?
Ça va être longue cette journée.
Parce que ce matin, il y a la matinale, après il y a le 9-10, et ce soir, vous serez à Marseille pour le débat des municipales sur BFM avec Benoît Payan, Martine Vassal, Franck Alizio et Sébastien Delogu. Et bon courage ! Faudra que vous adaptez à la langue locale.
Ah oui.
Mais je vous fais confiance, vous allez nous faire. Bonsoir les collègues, le B c'est le F c'est le M, bienvenue sur BFM la famille. On salue notre régie à Paris, PSG enculé, Benoît Payan t'y est tarpin bien dans les sondages Minot, mais Martine Vassal elle craint des gains. Alors est-ce que ça peut fumer le pneu dans la dernière ligne droite, le sang de la veine? Écoutez madame de Malherbe, d'abord bravo pour vos efforts, hein, mais on me parle normalement en fait. Oh mon gâté, tu te calmes le boss. Contresens mon chéri, tia, contresens. Où t'étais quand je mettais des 5 euros de sens. Allez, on va passer la parole à Sébastien Delogu. Pourquoi les Marseillais devraient voter pour vous, monsieur Delogu ? Oh, vous savez, j'ai viendu à la politique pour transmettre mes idéales. Et je pense, même si ça fait mal à la tête, je pense que les Marseillais, auxquels je leur dis « croivez en moi », ça va être bien. J'espère que vous aurez une belle audience, même si ce soir à Marseille, c'est soirée Ligue des Champions. Ah ben non, c'est pas soirée Ligue des Champions. Vous devriez scorer alors. À part ça, autre interview qui fait beaucoup parler, c'est aux États-Unis, Barack Obama, qui a affirmé que les extraterrestres existent, mais qu'il n'en avait jamais vu. On en a parlé cette semaine avec Arthur. Ça, c'est encore des secrets qui mouillent l'élite. Ça, c'est comme dans l'affaire Epstein. Si ça se trouve, il y a des dossiers et tout. On va découvrir que Alf, l'extraterrestre, a été présenté à Jeffrey Epstein par Woody Allen.
Salut, c'est Alf. Et maintenant de la planète Malbach. Et toi, de quelle planète viens-tu, Willy ?
Je ne m'appelle pas Willy. Je m'appelle Jack. Et je viens de l'Institut du monde arabe.
T'as pas une tête d'humain, Willy ? Il paraît que c'est ici qu'on peut manger des chats. Ils sont où, les petits chats ?
Cher jeune homme poilu, je crois que nous nageons en plein malentendu.
Willy, Willy, Willy. J'ai vu Jeffrey. Il m'a dit, passe à la maison, il y aura plein de minous à manger, Willy.
Oh non, ça dérange. Ça avait tenu les chroniques de manière impeccable et digne depuis le début. Et
il y avait beaucoup de dignité. François Fillon s'est désisté de son pourvoi dans le dossier des emplois fictifs de son épouse Pénélope, rendant donc sa peine définitive.
Ouais, inéligible jusqu'en 2030. Donc, François Fillon ne pourra pas se présenter à la prochaine présidentielle.
Comment on va faire ? On manque tellement de candidats de droite. Il y a juste Retailleau, Philippe, Isnard, Dupont-Aignan, Pierre, Attal, Darmanin, Bertrand, Michel-Édouard Leclerc et Olivier Faure. Il n'est pas de droite, oui, mais il n'est pas de gauche non plus. Il est un peu partout. Hein. Non, mais il en manquait un, il pouvait faire une équipe de foot. C'est ouais, trop c'est de candidats putatifs. Alors, putatif, c'est dans le dictionnaire, oui, les enfants.
Ce n'est pas un dérapage.
On a le droit de le dire,
c'est digne.
C'est pas un dérapage.
C'est digne.
C'est digne. C'est digne. On peut dire Éric Ciotti est un candidat putatif, même s'il n'a pas de cheveux. Au final, François Fillon.
Je suis perdu.
Au final, François Fillon a pris 4 ans de prison avec sourcils. On remet les classiques dans les blagues.
C'est un classique.
Vous savez que c'est la vanne que j'ai le plus vendue ces 10 dernières années. J'ai acheté mon appartement avec cette blague.
De nombreuses grandes enseignes invitent les Français à consommer des poireaux à cause d'une surproduction qui risque d'être perdue. Oui, j'en ai acheté 6 hier.
C'est vrai, c'est une bonne nouvelle. Eh ben, vous travaillez
pour
la France.
Oui, je travaille pour la France.
C'est bien. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. On manque de profs, on manque de médecins, on manque de places de prison. Mais niveau poireaux, on est bien. On est envahi par les poireaux. C'est les Arabes des potagers. C'est mort dans les couloirs. Il y a des gens sur Terre qui meurent de faim. Pourquoi on leur enverrait pas tous nos poireaux? Mais parce que c'est chiant à cuisiner. Voilà, il y a de la terre, ça met 1000 ans à cuire. Il faut 12 ingrédients. Alors je vois Mathieu. Ça y est, je vois Mathieu qui s'indigne. Mais non, mais c'est un légume super. Hier, j'ai fait un soufflé de poireaux confits, réduction chlorophyllienne et émulsion lactique déstructurée.
Il est belle.
Avec des poireaux élevés en permaculture introspective. Les enfants ont adoré.
C'est pas vrai, c'est pas bon.
J'ai tout fait au beurre clarifié en plus. C'est plus qu'un plat, Mathéo, c'est un voyage.
Une expérience.
C'est une expérience.
On peut pas aller au McDo.
J'ai passé la nuit à cuisiner cette œuvre. Regardez les nuances de vert. Tu crois que c'est facile de conserver la verticalité chromatique du légume sans altérer la granulosité? Bah ouais, les enfants sont ingrats.
Il y a du vrai en plus.
Ah ouais, je suis sûr.
Un bon vieux poireau vinaigrette.
Courage aux enfants. Courage à Pauline pour Marseille ce soir et les grandes gueules à Marseille ceci tout à l'heure.
On y va justement dans un instant, mais d'abord je voudrais aussi signaler Arnaud que vous passez aussi dans plein d'autres villes de France puisque vous êtes en tournée avec un nouveau spectacle à Reims, à Épinal, à Mâcon, à Lyon, à Toulouse ou à Rennes, spectacle RMC. Mais comme vous le disiez, on part à Marseille.
Détendez-vous sur RMC avec Idrac Business School, une école du réseau compétences et développement.
À Marseille, où se trouve Olivier Truchot. Salut Olivier, les grandes gueules sont en direct et en public depuis le Palais de la Bourse à Marseille. Première émission spéciale municipale 2026.
Oui, bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules ont débarqué hier soir à Marseille. Elles se préparent à être ici dans ce lieu magnifique. Regardez ce plan. C'est le Palais de la Bourse de Marseille. C'est au cœur de Marseille. On est à quelques mètres du vieux port, de la Canebière. Alors autant dire qu'il y a déjà beaucoup de monde à l'entrée parce que les Marseillais sont invités à nous rejoindre, à venir assister à cette émission. C'est la première escale de notre tournée spéciale municipale. On ira ensuite à Lyon. Nous serons aussi à Nice. Mais là, on est à Marseille avec Abel Boyi, notre éducateur, avec Laura Varton-Martinez, la sophrologue, et puis Antoine Dierce, le consultant venu de Dunkerque, vous imaginez, il est venu de Dunkerque, Antoine, pour apprécier la douceur marseillaise, parce que ce matin, c'est vrai, on est assez content, il ne pleut pas. Là, c'est déjà un miracle, il ne pleut pas à Marseille, il fait doux, et surtout, on a hâte de lancer cette tournée municipale. On parlera bien sûr des municipales à Marseille. Ici, il y a un sujet de conversation, est-ce que le RN peut gagner la ville. C'est la vraie question. On en parlera notamment avec le directeur de la rédaction de La Provence, qui est partenaire de cette tournée. Et puis, nous parlerons aussi des sujets d'actualité, bien entendu. On reviendra sur l'enquête concernant la mort de Quentin. Avec cette question, le député Raphaël Arnaud peut-il encore rester à l'Assemblée nationale? Bref, on vous attend 9h midi. Les GG sont à Marseille.
À Marseille, donc. Merci, Olivier. Et puis, je viens de vous rejoindre tout à l'heure, parce que j'en profite pour vous dire que je serai moi aussi à Marseille ce soir. soir, premier des grands débats des municipales. Rendez-vous à 20h55 sur BFM TV et BFM Marseille pour entendre donc les principaux candidats à la mairie de Marseille. Coup d'envoi de ces municipales. Dans un instant, c'est le face-à-face sur RMC et BFM TV. Mon invité, c'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clément Gouitz.
Réaction de l'Élysée ce matin après la mort de Quentin Derenck. Emmanuel Macron se dit préoccupé. Chacun doit faire preuve de calme et de respect. Il faut éviter tout engrenage de violence. La classe politique, elle appelle à la démission de Raphaël Arnaud. Trois de ses collaborateurs font partie des 11 interpellés, soupçonnés d'avoir participé au passage à tabac de Quentin Derenck à Lyon la semaine dernière. Jordan Bardella appelle à mettre en place un cordon sanitaire contre LFI. Le député insoumis, lui, peut compter sur le soutien de son camp. Les agents de la Sûreté de la SNCF et de la RATP bientôt équipés de taser. Le décret est paru ce matin au journal officiel. Une mesure expérimentale qui doit durer 3 ans. Objectif, permettre de maîtriser les situations violentes dans les transports. Habib Bey, coach de l'OM. Le club l'a officialisé cette nuit. Objectif, soulever la Coupe de France et monter sur le podium de la Ligue 1. La météo, toujours 4 départements, vigilance rouge crue. Le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Il fera cet après-midi de 4 à 14 degrés, 4 à Annecy, 8 à Lens, Strasbourg, 11 à Bordeaux, Bayonne, Lyon. Et la maximale, c'est à Nice ou encore Perpignan, avec 14 degrés.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
C'était le rappel des titres de Clément Gouitz. Dans un instant, mon invité, c'est Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Il vient évidemment réagir à la mort de Quentin Derenck à Lyon. Il veut rendre inéligibles tous ceux qui auraient été condamnés pour violence. Gérald Darmanin, dans un instant sur RMC BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le ministre de la Justice. Une question évidemment immédiate sur les arrestations et les liens avec Raphaël Arnaud. Parmi les personnes en garde à vue, il y a 2 assistants parlementaires, 2 salariés donc de ce député LFI. Est-ce qu'il peut continuer pour vous à siéger à l'Assemblée ?
Il faut attendre la fin des gardes à vue, les décisions des magistrats. Respectons la présomption d'innocence, mais on peut constater qu'il y a des faits extrêmement importants qui s'accumulent, qui montrent qu'il y a un lien évident, chacun le sait, entre Monsieur Arnaud, qui était lui-même déjà condamné pour violence, qui est le fondateur de la Jeune Garde dont on sait que c'est un groupuscule d'ultra-gauche extrêmement violent, et la France Insoumise, qui ne se désolidarise en rien, mais en rien, depuis plusieurs jours, de la violence et surtout du travail que fait la Jeune Garde pour imposer cette violence physique. Donc normalement, Monsieur Arnaud n'aurait jamais dû être investi par la France Insoumise. Elle se met ainsi, la France Insoumise, en marge de la vie républicaine et démocratique de notre pays. Que Monsieur Arnaud n'ait toujours pas été suspendu ou exclu montre que la France Insoumise récidive en ne gardant pas une sorte de cordon sanitaire entre les gens qui prônent la violence physique, politique, et puis le débat qui peut être frontal, bien sûr, parce que c'est la politique, mais qui reste dans le débat d'idées. Et puis évidemment, Monsieur Arnaud, personne ne peut le déchoir de son mandat de député, parce que c'est la démocratie. Mais c'est à lui sans doute d'en tirer des conclusions, si jamais, évidemment, la justice trouve des indices graves et concordants qui touchent lui-même, ses collaborateurs qu'il a embauchés. Il était le responsable. On a embêté Monsieur Fillon parce qu'il y avait des emplois fictifs. On a embêté Madame Le Pen, peine d'éligibilité parce qu'elle avait manqué la probité, disait le tribunal en première instance. Tout ça est sans doute normal. Il serait absolument normal qu'on embête Monsieur Arnaud pour lui dire vous pouvez pas rester député à l'Assemblée nationale du fait que vos collaborateurs, vous-même, avez été condamnés, seront condamnés pour
qu'est-ce
des violences physiques.
Qu'est-ce que vous appelez embêté?
Vous voyez bien qu'ils ne peuvent pas, sans doute légitimement, rester dans le débat d'idées, Monsieur Arnaud.
Mais est-ce que vous pensez aussi à une responsabilité qui puisse être démontrée par la justice dans, restons avant de la question morale, la question politique. Mmh. Au fond, vous parlez de ces 2 personnes qu'il a lui-même embauchées, qui sont donc à son service. Il y a même une 3e personne parmi les gardés à vue qui a fait un stage à l'Assemblée nationale auprès de Raphaël Arnaud. Il les a embauchés. Ils sont ses salariés. Ils étaient à Lyon, ni dans le Vaucluse, ni à Paris, et un jeudi, c'est-à-dire un jour de semaine, un jour de travail, j'imagine. Est-ce qu'il faut que la justice aille jusqu'à se poser la question de savoir si Raphaël Arnaud était au courant du fait qu'ils allaient à Lyon, voire même leur avait peut-être demandé d'aller à Lyon? Est-ce que pour vous, la responsabilité, elle va jusque-là?
Moi, je ne vais pas donner de pression sur le procureur de la République ou les magistrats ou les services enquêteurs. Je suis ministre de la Justice, mais vos questions sont absolument légitimes et tout le monde se les pose. Et la justice fera son travail librement. Il n'y a pas de protection pour la France insoumise dans la justice française. Tout le monde doit pouvoir répondre à droite, à gauche, des embauches de ses collaborateurs et puis bien évidemment de ce qu'ils font. Surtout lorsqu'on est soi-même le fondateur de la Jeune Garde, c'est-à-dire le fondateur d'un groupe d'ultra-gauche, ultra-violent, qui a tué dans les rues de Lyon. Moi, je suis effaré que la France insoumise et que M. Mélenchon n'ait pas tout de suite dit, parce que ça peut arriver, des brebis galeuses, comme on dit, personne ne peut contrôler l'intégralité des personnes qui sont dans un parti politique, c'est entendu, mais que M. Mélenchon n'ait pas clairement dit, voilà, c'est inacceptable, absolument inacceptable, nous donnons notre compassion à la famille de Quentin et nous faisons le ménage, comme vient de dire le Premier ministre. Au contraire, il a attaqué vos collègues journalistes de l'AFP. Quelques heures après la révélation de ces faits, il a attaqué ad hominem les journalistes de l'AFP qui avaient fait une dépêche. Il a attaqué Monsieur Aziza, mettant quasiment une fatwa numérique sur lui. Il continue à dire,
j'en ai sa radio.
Il continue à insulter Monsieur Glucksmann, qui a été extrêmement courageux, Monsieur Hollande, qui a été extrêmement courageux pour dire jamais plus la gauche ne doit s'allier avec la France insoumise. Il justifie cela. Il protège Madame Hassan, dont on sait tous qu'elle tient Rima Hassan, qui tient des propos antisémites, qui nie l'État d'Israël, qui veut exterminer ce qui reste de la dignité des Juifs et qui montre vraiment une violence extrêmement forte dans le débat public. Et comment peut-on imaginer à cet instant, et ça c'est très important que M. Hollande sur votre plateau, M. Glucksmann l'ait dit,
hier matin,
que demain la France insoumise puisse encore s'allier, demain les municipales, avec les partis de gauche. Est-ce que à Nantes, la maire de Nantes, socialiste, va s'allier avec la France insoumise? Il faut qu'ils le disent. Est-ce que au Havre, ils vont s'allier, la gauche unie, la France insoumise et les communistes et socialistes contre Édouard Philippe? Est-ce qu'à Tourcoing, la France insoumise va s'allier avec la candidate de gauche pour battre Dorian Bécu et Gérald Darmanin? On peut se rebattre dans les urnes. Mais alors il faut avoir un discours de dire que la gauche est capable de s'allier avec les pires, ceux qui prônent la violence physique, ou alors la gauche républicaine, laïque et démocratique, celle qu'on aime, celle qui a donné des grandes heures à notre pays, fait enfin le cordon sanitaire avec la France insoumise.
Là, vous vous adressez à la gauche, parce qu'effectivement des voix comme celle de François Hollande ou celle de Raphaël Glucksmann se sont élevées en disant « il n'y a plus d'alliance possible », mais vous vous adressez au reste de la gauche pendant ces municipales, en leur demandant si ce cordon sanitaire doit être mis en place.
Oui, parce qu'il n'y a pas que les socialistes. Il y a les Verts. À Lyon, il y a un adjoint aux Verts, celui en charge de la sécurité. L'adjoint écologiste en charge de la sécurité à Lyon est au retrait avec la Jeune Garde. Il le dit sur les réseaux sociaux. Il n'a pas eu un mot aujourd'hui pour dire « je me suis trompé, je n'avais pas vu que la Jeune Garde était un groupe d'ultra-gauche fasciste ». Il est toujours adjoint au maire, du maire écologiste de Lyon qui se présente aux élections. Il y a des tractages, des bannières en commun, des tracts en commun avec des candidats communistes, avec des candidats écologistes. Il faut absolument que ces partis disent aujourd'hui, dans les heures qui viennent, on ne peut pas travailler avec des groupuscules.
Vous demandez par exemple au maire de Lyon de se séparer de Mohamed Chihi, qui est cet adjoint à la sécurité dont vous parlez?
Ça vous paraît pas évident? Ou alors qu'au moins cet adjoint au maire puisse dire maxima mea culpa, je me suis trompé, la Jeune Garde est en effet un groupe d'ultra-gauche qui est ultra-violent et qui tue. Dans la propre ville où est mort Quentin, l'adjoint à la sécurité écologie des Verts est heureux de travailler avec la Jeune Garde. C'est cette propre phrase en démocratie.
Vous dites il n'y a pas de mea culpa. En effet, il n'y a aucun mea culpa de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui redit ses liens d'amitié, même de tendresse, dit-il, vis-à-vis de la Jeune Garde. Et il dit du Premier ministre qu'il a visiblement pété un câble, ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il demande à LFI de faire le ménage dans ses rangs.
Mais la France insoumise, malheureusement, c'est la théorie du chaos. Voilà. On pensait que c'était une théorie du chaos verbal. Il fallait toujours se méfier puisque le verbe évidemment peut tuer, mais on voit bien que c'est désormais, il y a un continuum. Comme disait Gilles Kepel à propos de l'islamisme, il y a un djihadisme d'atmosphère, il y a une violence politique d'atmosphère avec la France insoumise qui consiste à vouloir le chaos et pourquoi pas le chaos physique. Et je pense qu'ils souhaitent la confrontation avec le Rassemblement National, la France insoumise. Tout le monde sait que si au second tour de la présidentielle, c'est M. Mélenchon face à M. Bardella, c'est M. Bardella qui va gagner, mais M. Mélenchon sera content, ce sera le chaos politique, le chaos physique et le chaos économique. Il faut absolument empêcher ça, et oui, vous avez raison, la France insoumise montre son vrai visage. Elle a peut-être encore dans les prochaines minutes, prochaines heures, la possibilité de montrer qu'elle est un parti comme les autres, mais on sait bien, on sent bien Les Français le sentent bien, je crois. En tout cas, les Juifs l'ont bien compris, par exemple, que ce n'était pas un parti comme les autres.
Vous le disiez, il n'y a pas une mea culpa d'un côté. Il faut qu'ils sont en marge, dites-vous, aujourd'hui, sur la question aussi de l'action éventuelle de Raphaël Arnaud. Est-ce qu'il y a, d'après vous, à partir du moment où il avait déjà été lui-même condamné pour des faits de violence, personnellement, Raphaël Arnaud, que le groupe, la Jeune Garde, qu'il a cofondé, a été à nouveau condamné dans l'entre-deux-tours des législatives. Est-ce que pour vous, il n'aurait pas fallu qu'il puisse être investi?
Alors oui, et je pense qu'il faut une peine d'inéligibilité qui n'existe pas aujourd'hui. Le président de la République a évoqué une peine d'inéligibilité pour les gens qui étaient condamnés pour antisémitisme. On va profiter de ce texte de loi proposé par le président. Moi, je proposerais que des gens condamnés pour violences physiques qui auront lien avec les violences en réunion, c'est-à-dire les violences des ligues, pour rappeler les années 30, eh bien qu'on puisse pouvoir, que le juge, en toute indépendance, puisse prononcer une peine d'inéligibilité. Que
vous Madame allez Le Pen... donc présenter cette loi.
Exactement, mais que Madame Le Pen puisse ne pas se représenter aux élections parce que le juge a considéré en toute indépendance qu'elle avait manqué à la probité, c'est un fait, c'est notre droit, il ne faut pas toucher à cette disposition. Quand quelqu'un manque en effet à la probité, il ne peut pas se présenter devant les électeurs. Mais quand quelqu'un fait de la violence physique et a organisé des groupuscules qui demain peuvent tuer, évidemment, ils ne peuvent pas se présenter aux élections et siéger à l'Assemblée nationale. Donc je pense et j'espère que le Parlement me suivra dans cette disposition.
Un article 40 aurait-il pu être déclenché à un moment ou à un autre face à Raphaël Arnaud ou face à l'agissement de ses assistants parlementaires?
Alors sans doute, alors ça peut pas être le garde des Sceaux parce que je suis le seul en France à pas pouvoir en faire parce que je peux pas donner de pression sur les magistrats, mais il est évident qu'il y a un certain nombre de procédures judiciaires qui doivent aller jusqu'au bout, qui touchent la France insoumise. Pour l'instant, elles ne vont pas jusqu'au bout, donc je réunirai les procureurs généraux pour rappeler, pas que pour la France insoumise, pour tout le monde, enfin quand même, que lorsqu'on a des articles 40 faits par des professeurs d'université, je pense à ce prof de Lyon qui a été viré de son propre amphithéâtre par des groupes d'ultra-gauche, ou parce qu'il y a des réunions antisémites qui s'organisent, ou des propos antisémites extrêmement graves qui appellent à la haine, par exemple, on puisse évidemment aller jusqu'au bout de la procédure judiciaire. Donc les procureurs généraux seront réunis dans 15 jours et j'aurai l'occasion de leur parler de ce sujet.
Vous avez appelé la gauche à être très claire sur le fait qu'elle ne fasse plus alliance avec la France insoumise. Est-ce que vous appelez aussi votre propre camp à renoncer au barrage républicain, c'est-à-dire à avoir dit, comme Gabriel Attal l'avait dit au moment des dernières législatives, eh bien qu'il préférait voter même pour un LFI, si ça permettait de battre le RN?
Oui, j'étais en désaccord avec ce qu'a dit Gabriel Attal ce jour-là. J'étais un peu minoritaire à l'époque. Je ne mettrai jamais le bulletin LFI dans l'urne. Mais je pense que Gabriel Attal, à l'époque, avait été aussi courageux en allant défier M. Arnaud à Avignon pour soutenir notre candidate.
Il y avait été sur le terrain.
Qui a été battu, voilà. Donc je ne fais pas ce procès à Gabriel Attal, mais voilà, disons-le pour l'avenir. Que plus personne ne nous fasse le coup de votons LFI pour faire barrage. Ah, voilà. Je pense malheureusement que les deux extrêmes se rejoignent, mais que LFI aujourd'hui démontre, au moins par silence, mais vraiment je suis gentil en disant ça, sa complicité avec cette violence politique qui peut demain tuer encore dans les rues de Paris, de Lyon et d'ailleurs.
Vous dites encore demain, il y a notamment samedi ce rassemblement à Lyon en hommage à Quentin, mais qui suscite les plus grandes craintes. Est-ce que vous êtes globalement inquiet?
Alors je suis inquiet de la violence politique qui touche notre pays. D'ailleurs elle n'est pas que française, elle est dans une Europe qui se cherche pour plein de raisons, perte de démographie, difficultés politiques, les réseaux sociaux. Mais oui, si on peut être inquiet, il y a un excellent ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, il y a une très bonne préfète à Lyon, je la connais très bien. Ils prendront les
dispositions. Ils sont excellents, dites-vous, mais est-ce qu'il ne manquait pas de policiers lorsqu'il y a eu la venue de Rima Hassan, ouais, sachant que à plusieurs reprises la question du trouble à l'ordre public lors de ses venues dans l'université avait été invoquée.
N'inversons pas la charge de la preuve. C'est pas à cause des policiers, c'est pas à cause de la préfète, c'est à cause de nervis d'ultra gauche qui ont tué Quentin. Voilà. Donc on peut dire que la police tue à tout moment ou qu'elle était trop absente. Elle fait son travail. La police, elle est très courageuse parce qu'elle protège la France insoumise et ses dirigeants et ses meetings, alors que la France insoumise insulte la police tous les jours. On peut quand même dire que la police républicaine française est extrêmement courageuse. On peut se poser aussi la question de la responsabilité des établissements universitaires. Moi, personnellement, je suis assez peu invité à Sciences Po Lyon, à Sciences Po Aix. J'ai vu qu'à Sciences Po Lyon, Monsieur Coquerel puis Madame Hassan ont été invités en quelques semaines d'intervalle. C'est pas une grande variété idéologique auprès des universités et auprès des étudiants. Donc il y a aussi une question à se poser de la responsabilité des universités. Il y en a qui font ça extrêmement bien et d'autres sans doute qui ont un petit prisme idéologique, ça peut être possible. Voilà, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la mort de Quentin, partons du principe que personne n'avait vu que la France insoumise pouvait avoir un discours violent. Nous serions magnanimes en le disant. À partir d'aujourd'hui, c'est un point de bascule, vous avez raison, on sait que la France insoumise tient un discours violent.
Gérald Darmanin, des permanences LFI ont été taguées, une alerte à la bombe a eu lieu hier sur le siège de LFI, et Éric Coquerel, vous le citiez à l'instant, dit « j'ai peur que ça se termine très mal pour l'un de nous ». Est-ce que ça aussi, ça suscite votre inquiétude ?
Oui, bien sûr, et moi je condamne les agressions des permanences politiques de la France insoumise, comme les agressions qui touchent tous les militants, tous les candidats, quels qu'ils soient. Mourir pour des idées, mais de mort lente, disait Brassens. Je dis à monsieur Bompard, je dis à monsieur Coquerel, je dis à madame Panot, c'est à vous de dénoncer ces violences. Évidemment, la République, comme elle l'a toujours été, sera à vos côtés pour vous protéger physiquement, parce qu'on ne tue pas en démocratie. Et quand il y a des propos relativisant la mort de Quentin, même si c'est un militant d'extrême droite, qu'importe, c'est un homme, c'est un enfant, une famille a perdu un enfant. Donc il faut qu'aujourd'hui la France insoumise revienne du côté de l'homme et de l'humanisme.
Une question encore sur l'efficacité ou non de dissoudre des groupuscules. Vous le disiez, la jeune garde officiellement a été dissoute. Sauf que cet été encore, elle tenait un stand avec pignon sur rue, j'allais dire, sur l'université d'été de la France insoumise. Sauf que, semble-t-il, les membres ou ex-membres de la jeune garde continuaient à se réunir, à prendre, semble-t-il, un train pour aller à Lyon, pour être ensemble là-bas. En fait, quand on dit « on dissout », est-ce que finalement ça ne sert à rien ?
Non, ça sert. Alors le problème, c'est que pour la jeune garde, il y a un appel. Monsieur Retailleau a demandé la dissolution de la jeune garde.
Oui, mais cet appel n'est pas suspensif. Officiellement, c'est dissous.
Bon, ce qui fait que quand les groupes se réunissent, regroupement de ligue dissoute, comme on dit dans le langage populaire, et qu'on voit que les gens sont ensemble, quand la dissolution est définitive, ça permet une qualification pénale. Avant même qu'ils aient fait quelque chose, le fait qu'ils soient ensemble permet aux policiers de les interpeller et de les faire condamner. J'ai dissous Génération Identitaire. Ils se sont reconstitués, on a pu les interpeller et les faire condamner. J'ai dissous le GAL, qui est un mouvement d'ultra-gauche qui était déjà à Lyon. Ils se sont reconstitués, on a pu les faire condamner devant la justice. C'est aussi le cas de beaucoup de groupements et de groupuscules islamistes. Ce n'est pas la solution à tout, la dissolution, mais il est évident que c'est un premier pas qui permet d'éviter qu'ils aient une association, de l'argent, qui puisse ester en justice. La Jeune Garde, par exemple, elle fait partie de l'ensemble des tracts, des communications, lorsque j'ai voulu dissoudre le soulèvement de la Terre, par exemple, ou à en justice, puisque c'est une association, quand elle existe, peut attaquer quelqu'un, un homme politique, un journaliste, pour pouvoir
c'est
lui mettre la pression.
C'est aussi pour ça, dans ce
exactement
cas, qu'on engage cette...
Ce n'est pas la panacée, mais c'est une arme très importante.
Deux questions encore dans l'actualité. L'une sur le statut de victime et l'autre sur l'homme qui a attaqué un soldat sous l'Arc de Triomphe. Le statut de victime, vous dites désormais que vous voulez aussi être le ministre des victimes. Ça va se traduire comment ?
Alors d'abord qu'on puisse les accompagner dès qu'elles sont devant la justice. Parfois, l'agresseur supposé croise la victime supposée dans l'ascenseur alors qu'il y a une confrontation chez le juge d'instruction. Parfois, n'accompagne même pas une victime quand elle attend depuis 6 ou 7 ans le procès parce qu'il y a diverses actions qui sont faites par la partie adverse. Par exemple, on ne lui donne même pas une information, même pas un mail, même pas une communication. Parfois, lorsque, par exemple, j'ai un cas, j'ai reçu ces personnes, cette victime la semaine dernière, exactement mardi, elle me dit, bah voilà, mon agresseur est mort. Je l'ai su par l'avocat, après 6 ans d'attente, hein, par l'avocat, par mon confrère qui a reçu un appel de sa consoeur. Et personne, aucun greffier, aucun magistrat, aucun agent du ministère de la Justice m'a prévenu qu'il n'y avait plus de procès, puisqu'on ne condamne pas les morts et qu'on poursuit pas les morts. Donc il y a un manque de respect, alors pas toujours, pas tout le temps, parce que dans les juridictions, il y a des gens qui font des choses formidables, il y a des associations de victimes qui font des choses formidables, mais de manière générale, les victimes, les usagers de la justice ne sont pas très bien reçus. Et donc il faut que nous fassions attention à ça, que nous ayons de l'empathie et du cœur auprès des victimes.
Gérald Darmanin, vendredi soir, un homme a attaqué un soldat sous l'Arc de Triomphe au moment du ravivage de la flamme du soldat inconnu. Cet homme avait déjà été condamné pour des faits de terrorisme. Il avait purgé sa peine. Il était sorti de prison. Et il suivait d'ailleurs, semble-t-il, un programme de déradicalisation. Il semble que ça n'avait pas tout à fait marché. On sait qu'il y a 35 personnes condamnées pour des faits de terrorisme qui vont sortir de prison d'ici 2027. Est-ce que chacun pourrait à nouveau passer à l'acte comme ça a été le cas vendredi soir?
Ah oui, bien sûr, c'est les sortants de prison radicalisés ou condamnés pour terrorisme. Il y en a à peu près 700 dans les prisons françaises, hein, tout confondu, des gens condamnés et des gens qui se sont radicalisés, soit en prison, soit avant de rentrer en prison. Oui, ils sont très dangereux quand ils sortent de leur prison. C'est pour ça que pour ceux qui sont étrangers, je m'évertue à les expulser du territoire national, et pour ceux qui sont français, avec le ministère de l'Intérieur, puisque quand ils sortent de prison, c'est le ministère de l'Intérieur qui les surveille, qui les accompagne, qui les suit, qui les interpelle quand il y a un doute. Nous demandons des moyens supplémentaires, notamment d'accès au réseau et au réseau téléphonique. Il faut que les Français sachent que nous n'avons pas accès intégralement au réseau crypté, à WhatsApp, à Signal, à Telegram. Hier, les écoutes téléphoniques classiques nous permettaient d'interpeller les gens avant qu'ils passent à l'acte. Et là, pour des gens extrêmement dangereux, nous demandons, avec Laurent Nunez, hier avec Bruno Retailleau au Parlement, et j'espère qu'on l'aura bientôt, des moyens pour pouvoir suivre ces personnes.
Ça vous manque pour l'instant. Merci Gérald Darmanin d'avoir répondu à mes questions ce matin. Ministre de la Justice, la politique, je vous signale aussi que ça sera ce soir à 20h50 le premier débat, le coup d'envoi des municipales. Ce sera à Marseille, à suivre sur BFM TV et BFM Marseille. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, Gérald Darmanin était mon invité. Nadine Morano, vous vouliez réagir à cette interview ?
Écoutez, Madame Malherbe, oui, deux.
Pardon.
Oh, ça va, j'ai pas la... Deux Malherbes, ça va, oh là là, c'est Bourges. Écoutez, dans la période... ça va être long. Dans la période qu'on vit, il faut une voix raisonnable et apaisée. Hein. Mais bon, comme on n'en trouve pas, il y a que des gens qui gueulent en ce moment. Du coup, je me suis dit, ben Nadine, vas-y, parce que toi aussi, tu sais gueuler.
Ah oui.
En plus, la Malherbe, c'est géré. Elle s'est cognée la Marion Maréchal il y a deux jours.
11 personnes ont été interpellées dans l'affaire Quentin de Ranque. Deux sont des collaborateurs parlementaires d'LFI.
Ben évidemment que c'était les insoumis. Il n'y a pas besoin de s'appeler Alfred Epstein pour comprendre ça.
Non, c'est Alfred Einstein, Madame Morano. Quentin assurait la sécurité des membres de Némésis. Vous connaissez ce mouvement féministe spécial extrême droite?
Non, mais arrêtez. Ne commencez pas à utiliser des mots insultants.
Quand je dis extrême droite?
Non, quand vous dites féministe. Les féministes, on les connaît. C'est des étudiantes en surpoids qui ont des cheveux courts, une frange, frange colorée rose, avec un t-shirt sans manches parfait, j'aime mon vagin, et qui ont les mamelles qui pendent parce qu'elles ont 2 kilos de piercing à chaque téton. On les connaît. Oui, ça choque tout le monde. Mais il faut dire les choses. Du coup, ces nanas-là, elles trouvent pas de mec. Ben voilà, mais oui, mais c'est la vie. C'est comme ça, alors que nous, à droite, des nanas comme ça, il y en a pas. Némésis, c'est des vraies femmes qui plaisent aux hommes et qui luttent pour les droits des autres femmes. Mmh. Le droit de rester tranquille à la maison, de faire des gosses et des tartes aux pommes.
Non.
Voilà. Mais oui, évidemment que les insoumis, ça les rend zinzin. Hein, pour eux, les inspirations d'une femme, c'est avoir des poils aux pattes, parler fort et venir bâcher le panneau.
Oh.
Ben oui, mais faut dire les choses.
Oh, merci Madame Morano. Éric Ciotti voulait également réagir. Comment endiguer ces phénomènes de violence, selon vous, monsieur Ciotti?
Écoutez, Madame Malherbe, je suis heureux d'avoir retrouvé déjà ma voix.
Ah oui.
Et ma stature. La solution, je suis assez d'accord avec la théorie de M. Darmanin, la solution c'est la prison de haute sécurité.
Vous voulez enfermer les manifestants?
Non, pas du tout. Non. Je propose simplement que les insoumis se réunissent librement dans les cours, dans la cour d'un endroit plus sûr pour la cour d'une prison de haute sécurité.
Ah, c'est pour leur bien.
Pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est formidable une prison de haute sécurité. Pourquoi ne pas y organiser d'ailleurs les matchs à haut risque comme les Classico MPSG par exemple?
Ah oui.
Beaucoup aussi de nos concitoyens, nous le savons, aspirent à des vacances bien méritées dans des endroits sécurs. Mmh. Hein? Eh bien, pourquoi ne pas ouvrir nos prisons de haute sécurité afin qu'ils puissent venir passer un week-end, se ressourcer?
Oui.
Vous l'avez compris, je pense comme Gérald Darmanin que la prison c'est formidable. D'ailleurs, avec le code promo Darmanin 20,
oui,
tous les vos auditeurs qui réserveront dans le quart d'heure bénéficieront de moins 20% dans l'hébergement, dans les plus belles suites carcérales de nos prisons.
Ah, oui.
Profitez-en les insoumis, bien sûr aussi Christian Estrosi.
Merci Eric Ciotti. Allez, on retrouve Stéphane Bern pour les titres de l'actualité. Bonjour Stéphane.
Oh oui Apolline, oui bonjour. Bonjour ma reine. Dites donc, vous avez vu toute cette flotte, mais comment je vais faire moi pour mes émissions? Je vais tourner le plus beau village inondé de France, c'est ça le titre de mon émission? Non, je vous préviens, ne comptez pas sur moi pour présenter en scaphandre, ça me bousillait tout mon brushing. Allez, c'est parti pour les titres. Alerte à la bombe, hier au siège de France Insoumise où après avoir passé les locaux au peigne fin, les policiers n'ont trouvé qu'une seule chose pouvant représenter une menace pour l'intégrité physique des gens, Raphaël Arnaud. Et puis justice, la procureure de Paris, Laure Bécaud, en charge de l'enquête sur le Louvre, ouvre à présent une enquête sur le dossier Epstein. Elle sera toujours bredouille au niveau des bijoux du Louvre, mais à coup sûr, pas sur les bijoux de famille. Oh, oh non, je suis d'accord, c'est facile. Oui, et Pierre Fillon, l'ancien Premier ministre, a finalement renoncé à son pourvoi en cassation l'affaire des emplois fictifs de son épouse. Il s'en explique ce matin, il faut dormir mon cher.
Oui.
Il s'en explique ce matin sur notre antenne.
Oui, bonjour monsieur, écoutez, avant toute chose, j'aime ma femme. Écoutez, non, je n'ai pas choisi de renoncer à me pourvoir en cassation. C'est juste cette feignasse de Pénélope qui n'a pas envoyé à temps mon dossier de pourvoi au tribunal. Comme d'habitude, elle a rien foutu. Bon, mais ça l'a pas empêché de me réclamer son salaire. C'est de ma faute, je l'ai mal habitué. J'aime ma femme, mais enfin, elle commence à me les briser sévère.
Vous avez donc pris quand même 4 ans de prison avec sursis, monsieur Fillon?
Oui, du sursis, la poisse. J'aurais préféré du ferme, au moins 3-4 semaines, que je puisse aller en tôle écrire un bouquin pour payer les 300 000 boules qu'on me réclame.
Merci, monsieur Fillon. Une petite nouvelle people pour finir. Bernard Arnault a acheté le plus grand méga yacht du monde. Il mesure 143 mètres. François Ruffin est avec nous, bonjour.
Je dis, ça suffit. Le yacht de monsieur Bernard Arnault, multimilliardaire, va brûler, il faut le savoir, des millions de litres de gasoil par jour. Pendant que les Français, eux, galèrent pour faire juste le plein de leur vieille Renault 5 ou 4L. Avec quoi? Avec un pauvre mélange d'huile de friture recyclée, de villageoise et de reste de gel hydroalcoolique périmé, madame de Malherbe. J'espère que ce yacht indécent et ostentatoire aura le même destin, oui, que le Titanic. Sauf qu'avec le bilan carbone de monsieur Bernard Arnault, il ne restera bientôt plus d'iceberg pour faire couler ce bateau pour faire le boulot. Alors je le dis, ça me suffit.
Merci monsieur Ruffin, merci Nicolas, Face à Canteloup, qu'on retrouve dès demain 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant les GG, et les GG c'est à Marseille Olivier.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules ont débarqué hier soir à Marseille avec Abel Boyi, notre éducateur, avec Laura Vartour-Martinez, la sophrologue, et puis Antoine Dierce, le consultant venu de Dunkerque. Vous imaginez, ici, il y a un sujet de conversation. Est-ce que le RN peut gagner la ville? C'est la vraie question. On en parlera notamment avec le directeur de la rédaction de La Provence, qui est partenaire de cette tournée. Et puis, nous parlerons aussi des sujets d'actualité, bien entendu. On reviendra sur l'enquête concernant la mort de Quentin. Avec cette question, le député Raphaël Arnault peut-il encore rester à l'Assemblée nationale? Bref, on vous attend, 9h midi. Les GG sont à Marseille.